Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir.
Toucher.
Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
C'est l'histoire d'une journaliste qui décide de réaliser un rêve, celui d'un tour du monde pendant un an en faisant du woofing. Pour Françoise, le woofing est un excellent moyen de donner du sens au voyage en apportant sa contribution dans le monde agricole. C'est avec plaisir que j'accueille Françoise dans mon salon pour qu'elle puisse nous conter son inspirant voyage.
Waouh, qui est Françoise ? Françoise, c'est une rêveuse de bout du monde. C'est vrai que ce rêve d'aller au bout du monde, je l'ai depuis toujours. J'étais déjà partie, effectivement, dès qu'il y avait moyen, effectivement, je partais. Et en fait, après mes études, j'avais eu un grand regret, c'est que j'étais partie pour une durée indéterminée pour l'Amérique du Sud. Et ça a duré finalement 3 mois. Parce que tout simplement parce que j'ai trouvé un boulot après, bref. Donc voilà, et il y avait toujours ce regret, enfin, se dire, ah non, je veux absolument le faire. Et puis, ben, c'est vrai que je pense que comme beaucoup de gens, il y a ensuite, il y a la vie qui s'installe, on a un boulot, on vit en couple, etc. Et puis, ben voilà, il y a le confort, il y a la sécurité. Donc tout ça, ben, ces rêves, on les oublie. Et puis, en fait, ça m'est retombé en pleine figure. Pour 2 choses, j'ai fait un burn-out. Bon, ça, c'est maintenant, ça devient très commun. Donc, ça. Et puis, en fait, le fils de mon ex qui m'a téléphoné un jour pour me dire qu'il en avait marre. Il en avait ras-le-bol de sa vie ici, qu'avec sa copine, ben, il décidait de partir au bout du monde. Il ne savait pas s'il rentrerait, bref. Et puis, au cours de la conversation, comme ça, il ne fait pas gaffe. Hein. Et puis, il me dit, tu sais, là, j'ai 27 ans. Je me dis que ce n'est pas à 50 ans que je le ferai. Et pouf, là, ça m'est rentré en pleine figure. Je me dis, comment ça ? Eh ben si, à 50 ans, mon vieux, ma vieille plutôt, tu pars. Et en fait, je me suis dit, voilà, là, je me suis dit, attends, maintenant, écoute, qu'est-ce qui est plus important ? Écouter ton cerveau et la raison ou écouter tes tripes ? Écouter là, ce qu'il y a dedans, là, ce qui est dans ton ventre et ce qui te dit vraiment ce qui est bon pour toi. Et là, je me suis dit, je pars. Donc là, je me suis donné le coup de pied aux fesses cette fois et je suis partie pour un an.
Donc là, t'es en train de me dire que t'avais 50 ans quand t'es parti ?
51. Attends, 51, oui, je crois que c'est ça, oui, tout à fait. Ou 52, ben, je sais plus, quelque chose comme ça.
Donc ce qui est génial, c'est que c'est un rêve que tu avais déjà nourri adolescente, hein, c'est ça ? Tu savais déjà, ou tu avais déjà cette envie d'ailleurs et de voyage, mais finalement tu t'es fait rattraper par le train-train de la vie, t'as jamais pu réaliser ce rêve-là.
Ouais, c'est ça, effectivement, c'est, bah, je pense comme énormément de gens, hein. C'est vrai qu'on a des rêves, et puis ensuite, bah, y a la vie qui arrive, il y a le travail, il y a le quotidien, etc. Et là, je me suis dit à ce moment-là, alors attends, ton rêve, c'est où tu le vis maintenant, où tu arrêtes d'en parler, parce que tu le feras pas. Donc voilà, c'était vraiment ça, je me suis dit là, il y a un coup dur maintenant, il y a un ras-le-bol, et ben écoute, va voir ailleurs si tu y es, et au moins ce qui est pris n'est plus à prendre. Alors c'est vrai qu'il y a les gens qui te disent, mais mon Dieu, tu te rends pas compte, c'est dangereux, le bout du monde, etc. Je dis, oui, certes, mais bon, demain je traverse un carrefour, je me fais écrabouiller par une voiture, ben mon rêve, qu'est-ce que j'en aurais fait ? Donc voilà, et c'est vrai qu'on a cette chance en France d'avoir cette possibilité d'une aventure qui est sécurisée, c'est un sabbatique. Donc du coup, c'est vrai que je suis partie un an, bon j'avais une épargne que j'avais toujours gardée pour ce rêve, donc voilà. Et puis au moins, voilà, on peut se dire, je fais ce qui me tient à cœur.
On va parler de plein de choses dans cette émission, on va parler du retour, on va parler du départ, on va parler de l'itinéraire et du voyage. Ouais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, donc toi, tu t'es mis en disposition, c'est ça, t'as pris une année pour pouvoir voyager, mais tu savais déjà qu'en revenant, tu allais pouvoir récupérer le travail que tu as quitté en partant.
Oui, donc ça, effectivement, c'est vrai que c'est un aspect qui est sécurisant, tout simplement parce que j'ai pas 20 ans ou 30 ans, et qu'à 50 ans, retrouver un boulot, c'est quand même pas évident. C'est une possibilité qu'on a en France. Je me suis rendu compte au cours de mon voyage qu'on a énormément de chance pour ça, puisqu'il y a peu de pays qui ont cette possibilité-là, sauf en général pour les enseignants. Donc je me suis dit, voilà, tu prends déjà cette année, et après, on verra. C'est, voilà, au moins,
tu te prends ça, tu t'offres ça, tu te nettoies l'esprit, tu te nettoies l'âme, tu vis ce que tu aimes. Après, ben, je me suis dit, ben voilà, peut-être après que je ne reviens pas, peut-être que je reviens, mais c'est une chance qu'on a. Donc, n'hésitons pas.
Mais c'est vrai qu'on communique peut-être pas assez là-dessus, mais on a cette possibilité de pouvoir prendre une année de disposition, quoi. Comment ça s'appelle ? C'est un nom, je sais plus, une année de...
C'est un sabbatique. Donc, en fait, c'est-à-dire que pendant cette année, tu n'es pas payé, bon, ce qui est logique, parce qu'effectivement, tu ne travailles pas, mais tu sais que quand tu reviens, en fait, tu as la garantie, effectivement, de retrouver ton poste, enfin, ou un équivalent. Tu restes quand même dans les chiffres, en fait, de ton employeur. Et c'est vrai que c'est une chance. Honnêtement, oui. Parce que ça permet effectivement de vivre une aventure, mais en se disant, bon, si elle ne marche pas, par exemple, ou si, parce qu'il y a des gens qui vont le prendre, par exemple, pour démarrer un nouveau boulot, bah, au moins, ils savent que si ça ne marche pas, ils ont quand même, voilà, cette possibilité de retour. Et moi, de toute façon, moi, c'était ça, c'était de partir, de m'offrir cette évasion. Mais c'est vrai que maintenant, bah oui, j'ai très envie de repartir, c'est sûr.
Mais comme tu le dis, c'est une grande chance qu'on a en France de pouvoir avoir la chance de quitter sa vie professionnelle pendant un an, faire un break et puis vivre comme tu l'as fait, vivre ses rêves inavoués ou ses rêves inachevés.
Ouais, ouais, tout à fait. Ben, je dirais que moi, ce que ça m'a appris aussi, c'est que je dis aux gens, mais quand vous avez un rêve, mais quel que soit ce rêve, ça peut être effectivement de fonder sa boîte, de partir, ça peut être de s'occuper de ses enfants, enfin bref, ça peut être tout rêve, mais n'hésitez pas, faites-le. Faites-le, parce que un jour, il sera trop tard. Parce que la vie passe. Donc, ce rêve, si vous avez cette possibilité-là, mais faites-le. De toute façon, vous ne le regretterez jamais. Parce que mieux vaut avoir... Alors, comment on dit ? Je ne sais jamais. Moi, je me plante toujours entre les deux. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des remords ou des regrets ? Il vaut mieux se dire, j'ai tenté quelque chose. Peut-être que ça ne s'est pas passé aussi bien que je voulais. Peut-être que je me suis cassé la figure ou des choses comme ça. Mais au moins, je l'aurais fait. Je l'aurais tenté. Et là, ben, moi, je l'ai fait. Et je reviens. Et je vais dire, j'ai des souvenirs plein la tête. Et en plus, c'est vrai qu'en faisant du woofing, ben, j'ai été utile, quoi. Et ça aussi, ça, c'est quelque chose qui me plaisait. Parce que, effectivement, j'avais envie d'aller au bout du monde, mais je n'avais pas envie de voyager pour voyager. Je voulais avoir une utilité, je voulais avoir un sens. Et puis, et voilà. Et c'est vrai que le woofing, pour moi, c'est vraiment une chose qui me correspond beaucoup, quoi. Moi, j'avais cette satisfaction, effectivement, de me dire, mais voilà, j'ai eu un rôle, j'ai été utile dans les fermes où j'étais. Et en plus, ce sont des fermes bio. Donc, il y a aussi cet aspect-là aussi, c'est de aider effectivement cette agriculture bio. Voilà, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Je dirais que le voyage, c'est... En plus, voyager pendant un an, donc c'est-à-dire sur une longue période, c'est aussi aller à la rencontre de soi. Parce que c'est se confronter soi-même à ses peurs. Alors, je dirais... Après, bon, chacun... à son parcours, mais je dirais que pour moi, le plus difficile, c'était avant. Je savais, en gros, que durant, ça ne me poserait pas de problème. Effectivement, j'aime l'aventure, je peux dormir partout, j'ai de l'énergie, donc travailler, mettre les mains dans la terre, être dehors, alors ça me convient tout à fait. Je peux manger de tout, je peux boire de tout, donc là, voilà, ça me gênait pas. Ce qui pour moi, était le plus dur, c'était avant. C'est déjà se donner le coup de pied aux fesses en se disant, bon, bah, maintenant, tu pars. Et puis, c'est tous les préparatifs. Ça, c'est usant. C'est vrai que j'avais lu un guide sur le voyage autour du monde et qui m'avait beaucoup rassurée. Enfin, son introduction m'avait beaucoup rassurée parce qu'il disait, en fait, il y a des gens, comment dire, ce qui est le plus difficile, effectivement, c'est avant. C'est les préparatifs, au point que certains, finalement, ne partent jamais. Et donc, de se dire, tu as passé ce cap et tu es parti, c'est... c'est déjà très, très rassurant.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
À travers ton regard, je me découvre.
Regarde d'ailleurs sur le chemin des différences.
intéressant ça, de me parler des préparatifs. Hein. Donc moi je pensais que le plus difficile c'est de sortir du carcan des habitudes, hein, parce qu'on est pris dans une dynamique quotidienne avec ses habitudes bien installées, et rompre avec tout ça, la peur de l'inconnu peut-être, aller au-delà de ses peurs. Moi je pensais que c'est les peurs finalement ce qu'il y a de plus compliqué à surpasser pour pouvoir prendre enfin la route et mettre un pied devant l'autre et se lancer sur son tour du monde. Parle-moi de cette phase de préparatifs.
Bah en fait, ce sont toutes les difficultés qui sont matérielles, en fait, qui se mettent en place. C'est-à-dire, de façon toute bête, c'était trouver des locataires pour mon appart, puisque j'ai encore un crédit à payer. Donc, c'est vrai que, mine de rien, ça a quand même son importance. C'est régler les problèmes de banque, c'est régler les problèmes avec son assurance, c'est régler. Enfin, il y a plein d'espèces de petits trucs comme ça qui sont matériels et qui sont comme des obstacles et qui font que parfois on se décourage, qu'on se dit zut, enfin quoi, c'est... Et c'est vrai aussi, ce qui a pris beaucoup de temps, c'était donc, comme je ne partais qu'un an, donc j'ai opté pour le billet d'avion tour du monde, qui est un forfait, qui a cet avantage, c'est que ça coûte moins cher et qu'on n'a pas besoin après, effectivement, de se mettre sur Internet pour chercher, de perdre du temps. En revanche, c'est vrai qu'il y a des conditions qui sont très rigides, c'est-à-dire qu'il faut fixer à l'avance ses escales, il faut fixer ses dates. Et ça, c'est vrai que ça prend énormément de temps, surtout quand on fait du woofing. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je voulais aller au Canada et en Nouvelle-Zélande aux belles saisons. Et après, c'était en fait essayer de mettre en place effectivement tout, voilà, les étapes. Donc, il faut ajuster entre les rêves, la réalité. Et puis effectivement, il faut voir son budget, parce que ça, c'est mine de rien, même si quand on woof, on est logé, nourri, il y a quand même tous les moments entre. C'est vrai que moi, j'ai trouvé que le plus dur, c'est avant. Parce qu'après, une fois que tu es parti, de toute façon, tu es sur ta lancée, quoi. Donc là, il y a une dynamique après qui se met en route. Il y a le plaisir de partir, de découvrir. C'est vrai que sur un an, il y a des moments qui peuvent être difficiles. Je sais qu'au bout de 9 mois, il y a un moment aussi où on fatigue. Mais alors, idem, c'est vrai qu'avoir lu des blogs avant m'avait fait du bien, parce qu'effectivement, j'avais pu voir que tous ceux qui sont partis sur le long terme disent, il y a un moment effectivement où il y a un ras-le-bol, où on n'a plus envie, de rencontrer des gens, on n'a plus envie de décorer. Ils disaient, vous inquiétez pas, c'est un passage. Je me souviens effectivement d'un jeune couple qui a passé 10 jours dans une ville qui pourtant était magnifique, et en fait qui ont passé 15 jours quasiment enfermés dans leur chambre de hôtel parce qu'ils n'avaient plus envie, quoi. Ils n'avaient plus envie. Il dit, en fait, voilà, il faut accepter ce moment, il faut accepter ce passage. C'est un passage à vide. On fatigue parce que c'est vrai qu'on est toujours sur le chemin, on est toujours... Donc, et puis après, on repart. Moi, c'est les 9 mois, un moment où j'en avais un peu ras-le-bol. Là, quand je suis arrivée en Thaïlande, en plus à Bangkok, et puis après, quand je suis allée en Inde, j'ai retrouvé le plaisir du voyage,
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Survez ce moment.
Le chemin le plus court pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs sur le chemin des différences.
C'est un mot anglais, hein, c'est willing working on organic farm, donc travailler dans une ferme. C'est un moyen de voyager. Tu parlais du voyage utile ou de donner du sens à son voyage. Donc on va peut-être présenter la démarche du woof et du woofing qui existe dans quasiment tous les pays du monde.
Alors je crois effectivement que ça existe dans pas mal de pays. Pas tous, mais presque. C'est vrai que c'est... c'est un moyen de voyager qui est moins cher, certes, mais c'est surtout, effectivement, c'est ça, on est utile. Alors, effectivement, moi, je n'ai pas de base en agriculture, donc j'ai vraiment fait la petite main, j'ai vraiment aidé, là où il y avait besoin. Je prends des exemples tout bête, chez Lucie au Québec, il y a un moment aussi, comme on était en juin, ça a été le nettoyage de la piscine et son remplissage. Parce que voilà, ça fait partie aussi des choses dont elle a besoin. Voilà, c'est donner le coup de main dont la personne a besoin au moment où on y est. En Thaïlande, j'étais en saison sèche, donc il n'y avait pas de travail dans le jardin, puisqu'effectivement, il était complètement cramé. Donc, on a nettoyé les pare-feux donc pour éviter effectivement qu'il y ait des incendies qui se propagent, puisqu'on était dans la forêt. Ça a été coupé des bambous pour construire un poulailler, faire des briques en terre crue pour la cuisine. Donc voilà, c'est vraiment très variable, disons. Pour moi, enfin, ça me semble une évidence, c'est de s'adapter aux besoins de la personne. Parce qu'on est quand même là pour être utile.
Donc le woofing, on devient membre, et donc on a une liste de contacts, de gens qui proposent contre le gîte et le couvert, donc moyennant quelques heures de travail par jour, entre 6 et 8, je pense que ça dépend en fait de là où on va, peut-être même moins quelquefois. Hein, donc c'est bien ça, on regarde les différents contacts, les différentes adresses, en fonction de ce qu'on propose comme tâches, donc souvent des tâches en lien avec l'agriculture organique, comme le dit le haut de woof dans organique. Et donc, on prend contact et on voit comment ça se passe. Et voilà, est-ce que je peux rester chez vous une semaine, deux semaines, trois semaines? C'est ça? Quelle est la démarche? Une fois que tu es membre du WOOF, tu as ta liste des adresses. Et après, comment tu fais pour choisir l'endroit dans lequel tu vas poser tes bagages?
Alors, effectivement, tu adhères au réseau du pays. Donc, en gros, c'est, disons, entre 20 et 40 dollars ou euros pour l'année. Et ensuite, du coup, tu as la liste, effectivement, des fermes. Et ensuite, c'est à chacun de se contacter. Ça peut être la ferme qui contacte, ça peut être le woofer qui contacte. Et ensuite, voilà, c'est au feeling, c'est au... Alors, je sais que moi, ce que j'ai apprécié dans les sites, par exemple, canadiens ou néo-zélandais, et thaïlandais aussi d'ailleurs, c'est que on peut mettre des commentaires. Alors, aussi bien le woofer peut mettre des commentaires sur l'agriculteur que l'agriculteur peut mettre des commentaires sur le woofer. Et moi, je me suis beaucoup basée sur ça. Parce que il y a le travail dans une ferme, mais il y a aussi le contact. Et pour moi, ça, c'est important. Et c'est d'ailleurs pour ça que la première ferme où je suis allée, quand j'ai débuté mon voyage, c'était au Québec. C'était chez Lucie. C'était dans un coin du Québec qui n'était pas spécialement beau, mais je savais que je voulais aller là-bas. Parce que j'avais vu effectivement sur les commentaires que c'était quelqu'un chez qui on se sent bien. Et ça a été vraiment une des expériences que j'ai le plus aimé, quoi. Parce que voilà, là, c'était... Je dirais même que les expériences que j'ai le plus aimées, c'est celles où je me suis sentie bien, où je me suis sentie intégrée. Et à ce compte-là, que le travail soit ceci ou cela, à la limite, moi, ça ne me gêne pas. C'est surtout quand il y a un échange avec les gens, quand on est intégré dans l'équipe. Alors là, effectivement, là, c'est du vrai bonheur, quoi.
Donc ça, c'est le woof. Je vous invite à aller faire un tour sur Internet en tapant woofing et vous aurez toutes les informations si vous aussi vous êtes tenté par cette aventure, par cette expérience d'aller vivre chez quelqu'un, de participer au quotidien, de découvrir énormément de choses parce qu'on rentre vraiment dans la vie d'une famille ou d'une personne et on a tout à apprendre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
L'émission radio pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Françoise, tu es avec moi dans mon salon. Tu es partie à faire un tour du monde pendant presque une année. Tu as fait le choix de quitter ton travail sur une année sabbatique pour vivre ce rêve adolescente que tu avais, que tu n'as jamais vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Tu me parlais de la préparation au départ, peut-être une des étapes les plus compliquées avant de se lancer. Une fois qu'on est parti, c'est bon, le plus dur est fait selon toi. Le départ, il faut aussi choisir son itinéraire. Donc j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à l'itinéraire. Comment est-ce que tu as construit ton itinéraire? Et emmène-nous avec toi en voyage.
Alors, mon itinéraire, disons que j'avais deux désirs, effectivement, c'était de woofer au Canada et en Nouvelle-Zélande. Sachant que ce sont des pays où il y a des hivers et des étés, donc du coup, j'ai fait en sorte, effectivement, d'y être au bon moment, à l'été. C'est vrai vrai que j'avais toujours rêvé en fait de faire un tour du monde en commençant par l'Est, et finalement je l'ai fait en commençant par l'Ouest, puisque comme je partais en juin et que je rentrais en mai, donc j'avais intérêt effectivement à être au Canada en été. Donc j'ai commencé par le Canada, et du coup j'ai fait en sorte effectivement d'être en Nouvelle-Zélande en décembre et janvier, qui est l'été effectivement là-bas. Et après, eh ben, j'avais une liste énorme effectivement de pays où j'avais envie d'aller. Donc après, bah, il faut faire un choix, il faut éliminer, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'un an pour un tour du monde, eh ben, c'est très court. J'étais au Québec et en Ontario. Ensuite, je suis allée à Détroit parce que il y avait une chose que je voulais absolument, absolument vivre. C'était l'agriculture urbaine à Détroit, parce que c'est la Mecque. C'est la ville où c'est ce n'est pas qu'une question d'environnement, comme on le fait souvent, enfin, puisqu'on en fait à Montréal, il y en a à Rio, il y en a dedans. Mais là, c'est une question de survie pour eux. Donc là, je voulais vraiment en faire là-bas. Et ensuite, comme j'avais déjà été en Amérique centrale et que j'avais très envie d'y retourner, donc je suis allée au Nicaragua et au Guatemala. Ensuite, j'avais eu une adresse, là, par un pur hasard, effectivement, d'une ferme d'huîtres perlières à Tahiti pour bouffer. Donc là, je me suis dit, vu que le coût de la vie là-bas, enfin, c'est extrêmement cher, je me suis dit, où effectivement tu peux aller dans cette ferme et du coup tu passes là-bas, ou tu ne peux pas et du coup tu ne passes pas par Tahiti, parce que là effectivement c'est un coût de la vie qui est énorme. Donc du coup effectivement je suis passée par la Polynésie française, puisque je suis allée dans cette ferme. Ça, c'était l'expérience sans doute la plus étrange que j'ai jamais vécue, puisque une ferme d'huîtres, on est au bout du monde. Mais alors vraiment au bout du monde. Ça, on ne peut pas être plus isolé. Déjà, parce qu'il y a une chose, en fait, je pense qu'on n'en est pas conscient en France. Quand on regarde sur une carte du monde, c'est vrai que la Polynésie française, elle est souvent coupée en deux. Elle est quelque part en bas à gauche et quelque part en bas à droite. Puis bon, c'est un petit bout de la France. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est aussi grand que l'Europe. Mais c'est des confettis. C'est des confettis minuscules. Et avec des milliards et des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau. Et là, lorsque je suis allée donc sur l'atoll, donc Ae, c'est un tout petit atoll. Et ensuite, j'étais sur ce qu'on appelle un motu. En fait, c'est comme une mini île en fait sur l'atoll. Et là, la ferme est dans l'eau, et c'est l'isolement total. On était à trois quarts d'heure de bateau de l'aérodrome avec ses deux avions par semaine, à une demi-heure de bateau du village qui a un cargo par semaine avec des approvisionnements qui, peut-être qu'ils vont amener ça, peut-être qu'ils vont pas, on sait pas. Donc il y a des rayonnages dans les épiceries avec, il y a des rayonnages vides, et puis soudain il y a des rayonnages pleins de ceci. Ensuite, il y a des rayonnages vides et puis un rayonnage plein de cela. Et là, c'est impressionnant, quoi, parce qu'on est sur un atoll. On est sur son petit morceau de récif de corail battu par les vagues. Et puis au-dessus, l'air. En dessous, l'eau. À gauche, rien. À droite, rien. Mais rien, rien, rien. C'est l'immensité, quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Donc voilà, là j'étais là-bas. Ensuite, je suis allée en Nouvelle-Zélande. Alors là, c'est une expérience qui est géniale, parce que les kiwis, mais ce sont les gens, sont des gens, mais qui sont adorables. Qui sont adorables. Moi, j'ai pensé que les gens les plus sympas du monde, c'était les Québécois. Les kiwis sont aussi sympas.
Donc les kiwis, c'est les Nouveaux-Zélandais.
C'est les Néo-Zélandais. C'est des gens, mais qui sont chaleureux, qui sont ouverts, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur. Plus le fait que le pays, effectivement, est magnifique, hein. On peut servir à tout. J'ai été dans une ferme, donc élevage de moutons, et c'est vrai qu'à un moment, j'ai demandé à Amish, mais est-ce que effectivement ce que je fais, c'est vraiment utile? Parce qu'en fait, je m'interrogeais, j'ouvrais et je fermais le portail, je me plaçais au milieu du chemin, en fait, pour empêcher que les troupeaux partent sur un chemin qui n'était pas le bon. Et il m'a dit, si, parce qu'effectivement, tu me fais gagner du temps. C'est vrai que ça paraît bête, comme travail de descendre du 4x4, puisque de toute façon, c'est tellement immense qu'il se déplace en 4x4, mais de descendre, ouvrir et fermer le portail, lui, ça lui évite de le faire lui-même, donc il gagne du temps. Ça peut être parfois des trucs qui sont vraiment très bête. Et ensuite, ensuite, j'allais en Thaïlande. Mais du coup, je me suis dit, bon, ben, entre la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande, autant que t'en profites pour faire un petit saut de puce au Japon. Parce que pour moi, c'est le pays le plus mystérieux du monde. Et c'est quand même moins loin d'y aller de Nouvelle-Zélande que de France. Donc là, j'ai fait un petit saut de puce de 15 jours, mais là, vraiment simplement pour voyager, pour redécouvrir. Et ensuite, j'étais en Thaïlande. Et j'ai terminé par l'Inde.
Et tu as fini avec le pays de toutes les extrêmes. Tu as terminé en Inde.
Alors oui, j'ai terminé en Inde. Alors les extrêmes, je ne les ai finalement pas vus tant que ça puisque j'étais en Inde du Sud. Et l'Inde du Sud est effectivement beaucoup plus douce. Beaucoup plus douce que l'Inde du Nord. Donc je n'ai pas vu de scènes complètement horribles. Je n'ai pas vu de gens qui meurent dans la rue. Je n'ai pas vu qui est plutôt ce que l'on va voir à Delhi. Moi, j'étais en Inde du Sud parce que je voulais rencontrer une association, Anadana, en fait, qui collecte des graines anciennes et qui a des banques de semences en fait, pour les redistribuer ensuite aux paysans. Parce qu'en fait, le problème de l'Inde, c'est que pratiquement toutes les cultures maintenant ne sont plus que des cultures hybrides. Alors déjà, il y a les OGM, là, c'est pour le coton. Le coton est à 90% ou à 95% en OGM. Et toutes les autres cultures ne sont plus que des hybrides. Le problème des hybrides, c'est que c'est très gourmand en eau, c'est très gourmand en produits chimiques. Et puis, évidemment, comme tout hybride, c'est stérile. Donc, les agriculteurs sont obligés de racheter les semences chaque année. Donc il y a des agriculteurs, il y a un endettement horrible et il y a des agriculteurs qui se suicident, il y a des vagues de suicides depuis une dizaine d'années. Et donc voilà, cette association fait partie de celles qui essayent effectivement de lutter contre ça en récoltant des graines anciennes, effectivement, qui sont adaptées au climat, qui sont adaptées au lieu, qui n'ont pas besoin d'une irrigation énorme.
Donc en préservant la biodiversité et en empêchant les graines hybrides, donc non reproductibles, et surtout qui rendent les paysans complètement dépendants des multinationales, qui l'ont très bien compris.
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est l'industrie agroalimentaire, effectivement, qui a pris le pas. Et l'Inde est complètement sous leur coupe, effectivement. Au point même que parfois, que les agriculteurs, ils ne savent même plus faire leur propre culture. Ils n'ont même plus. Comment est-ce qu'ils pourraient ? Puisqu'en fait, même s'ils essayent de faire un potager, les graines, de toute façon, ne germent pas. Donc,
C'est vrai qu'on a transformé en quelques années, en quelques décennies, les agriculteurs en exploitants agricoles. C'est vrai qu'il n'y a plus cette connaissance de la terre, mais on est devenu vraiment des industriels de la terre, quoi, sans respecter les cycles du vivant, sans respecter le vivant lui-même.
Ah ça, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça, justement, que le woofing, son but, effectivement, c'est d'aider les agriculteurs bio, puisque c'est justement c'est aider ceux qui essayent de ne plus être dans ce système fou, mais c'est un travail qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et d'où le fait, effectivement, que le woofer soit utile. Alors après, il faut qu'il soit, effectivement, vraiment utile. C'est le problème, c'est que on n'a pas forcément des connaissances. Donc c'est pour ça qu'il faut au minimum rester 15 jours, parce qu'il faut le temps aussi que l'agriculteur puisse donner des éléments, effectivement, à la personne. Parce que c'est vrai que ça peut arriver, oui, que des woofers cassent du matériel. Ça peut arriver aussi, par exemple, je me souviens de quelqu'un en Thaïlande qui disait, oui, j'ai demandé à des woofers de désherber, enlever les mauvaises herbes là dans un endroit. Le problème, c'est qu'en fait, comme ils ne connaissaient pas et qu'ils ne m'ont pas posé la question, et bon, peut-être que lui non plus n'a pas pensé à leur dire, mais du coup, ils ont tout désherbé, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé aussi les plantes. Ben oui, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut y être un minimum de 15 jours pour pouvoir être utile, parce que la bonne volonté, c'est très bien, mais si c'est de la bonne volonté, mais qui complique la vie de l'agriculteur, ça ne vaut pas le coup. Donc il faut vraiment se dire, j'y viens pour être utile.
Françoise, tu as passé un an sur les routes, tu as fait le choix de vivre tes rêves pour faire ton tour du monde en passant par quasiment tous les continents.
Ouais, c'est une belle aventure, c'est là en moi. Je pense aussi que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à mieux m'aimer. Et puis c'est aussi, c'est la satisfaction de se dire ce rêve, tu l'as vécu, te nourrit. Et après, effectivement, c'est à voir comment est-ce que je vais continuer avec ça. Est-ce que je reprends une vie normale ou est-ce que je repars maintenant, je suis rentrée, mais il y a 5 mois, donc c'est encore relativement frais. Voilà, maintenant, c'est à voir, c'est à discuter, voilà.
Merci, Françoise.
De rien.
Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.